en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Academy vous propose de suivre dans quelques instants une partie du colloque consacré aux transplantations qui s'est déroulée en février 2008 à l'Académie des sciences. Olivier Thonat, chef du département de transplantation et d'immunologie clinique à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, évoque dans le premier quart d'heure la réponse allo-immune humorale locale au cours d'un rejet chronique. Christophe Legendre, quant à lui, développe dans la deuxième partie de cette retransmission les recherches cliniques actuelles en matière d'alloréactivité humorale. Il travaille à l'hôpital Necker à Paris et est également professeur à l'université René Descartes. Au cours de cette demi-heure, vous entendrez parler essentiellement d'anticorps anti-HLA ainsi que de cross-match. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, lorsqu'il y a transplantation d'organes chez un individu, il peut survenir un rejet hyper aigu dans les heures qui suivent l'opération. Ces cas extrêmes arrivent essentiellement lors de transplantation rénale et semblent plus rares dans le cas de transplantation cardiaque ou hépatique. Ils sont la conséquence d'anticorps zélés dont la plupart sont appelés anticorps anti-HLA. Le réseau artériel du patient s'abîme alors très rapidement et le greffon se nécrose. Il n'existe pas de traitement curatif pour le moment, seulement un traitement préventif. Ces anticorps anti-HLA apparaissent le plus souvent dans trois cas: après une transfusion sanguine, lors d'une grossesse, même si elle n'est pas menée à terme, et lors d'une transplantation. Il importe donc, chez tout patient transfusé, atteint d'une insuffisance rénale et susceptible d'être un jour transplanté, de rechercher l'apparition d'anticorps anti-HLA. Pour déterminer quels patients peuvent être transplantés sans difficulté, on réalise ce qu'on appelle un cross-match juste avant la transplantation. Il s'agit d'un test de cytotoxicité entre les lymphocytes d'un ganglion du donneur et le sérum du receveur potentiel, et on ne transplantera que si ce test est négatif. Lorsque les résultats montrent que le patient est hyper-immunisé, il bénéficie dans ce cas de priorité pour l'attribution d'un greffon sans incompatibilité HLA. Avec ces quelques précisions de départ, je vous propose sans plus tarder d'écouter Olivier Thonat dans une première partie, puis Christophe Legendre.
Les progrès qu'on a fait au cours des dernières années sont surtout traduits par une amélioration considérable des résultats précoces, mais vous voyez qu'ensuite, au-delà de la première année, la pente de régression est finalement à peu près la même, quelles que soient les époques auxquelles on s'intéresse, et donc finalement les processus de perte tardive des greffons ne sont pas très bien compris et pas très bien maîtrisés par les traitements dont on dispose. Et c'est en particulier le cas du rejet chronique, qui est une des composantes de ces pertes tardives des greffons. Le problème du rejet chronique, quand on s'y intéresse d'un point de vue scientifique ou laboratoire, c'est que tout le monde ne parle pas de la même chose en fonction de l'organe qui transplante. La fréquence avec laquelle il survient est extrêmement variable. Il est très fréquent dans le poumon, beaucoup moins fréquent dans le foie. La présentation clinique n'a rien de spécifique, c'est simplement une perte progressive de la fonction du greffon. Et donc on est face à une insuffisance rénale quand on transplante un rein, une insuffisance cardiaque quand c'est un cœur. Les lésions histologiques sont variables en fonction de la nature du tissu qu'on transplante. Et donc finalement, les gens ne parlent pas tous de la même chose. Heureusement, comme on a systématiquement affaire en transplantation des organes vascularisés, il existe toujours la lésion de rejet chronique vasculaire, qu'on appelle également l'artériosclérose du greffon, et qui est une lésion en fait, qui est un point commun à partir duquel on peut commencer à travailler. À quoi ressemble cette lésion ? Vous avez devant vous un réseau artériel d'un rein qui a été détransplanté pour un rejet chronique terminal. Et vous voyez donc sur ce réseau artériel, quand on le coupe à différents endroits, que les vaisseaux sont extrêmement abîmés, avec une occlusion presque complète ici et très très importante en proximale de la lumière du vaisseau, et on comprend bien qu'un organe qui est aussi mal vascularisé fonctionne probablement beaucoup moins bien, même s'il y a plein d'autres lésions qui vont participer à cette destruction progressive du greffon. Comment est-ce qu'on peut faire pour reproduire cette lésion vasculaire ? La façon la plus simple possible, c'est encore de transplanter un segment d'artère. Vous avez donc dans le modèle d'interposition aortique, qui peut se pratiquer chez le rat ou chez la souris, consiste à mettre en position orthotopique un segment d'aorte abdominale sous-rénale entre deux souches de rats histo incompatibles. Et l'intérêt de ce modèle, qui est très utilisé, même s'il est simpliste, c'est que d'abord, il est chirurgicalement relativement accessible chez ces petits animaux. Ensuite, que les lésions du greffon vont se développer dans un délai qui est compatible avec la recherche au laboratoire, quelques mois. Que les lésions qu'on observe, ce qui est très important, sont superposables à celles auxquelles on doit faire face en clinique. Et puis que, compte tenu du gros diamètre de l'artère, on n'a pas besoin donc, d'ajouter d'anticoagulation ni d'immunosuppresseur, ce qui est intéressant quand on cherche à décrypter les mécanismes, parce qu'on ne va pas ajouter de facteurs confondants. Donc voilà comment est-ce qu'on peut résumer les choses. Vous avez à gauche de l'écran une artère normale, à droite une artère rejetée de façon chronique. Donc une artère s'est constituée de trois tuniques concentriques, une monocouche de cellules endothéliales à l'interface avec le sang. Ensuite, plusieurs couches de cellules musculaires lisses enchâssées dans des lames élastiques. Et puis, en plus, le plus externe, c'est l'adventice. C'est une tunique qui est acellulaire, très peu cellulaire, disons, surtout constituée d'un tissu de soutien conjonctif. Et vous voyez qu'au cours du rejet chronique, on a d'une part une occlusion progressive de la lumière du vaisseau par une prolifération de myofibroblastes, ici c'est la prolifération néo-intimale qui est très connue, une disparition de ces cellules musculaires lisses dans la média, et puis, de façon intéressante, un infiltrat inflammatoire périvasculaire extrêmement abondant. Et nous, il nous a paru intéressant de focaliser sur cet infiltrat inflammatoire, puisque d'une part, il était disproportionné par rapport au faible nombre de cibles allogéniques présentes dans cette couche. Je vous ai dit qu'il y avait très peu de cellules, il n'y a finalement que du collagène qui n'est pas polymorphe, donc il ne devrait pas susciter de réponse allogénique. Et puis d'autre part, quand on manipule les événements qui se passent au niveau des autres couches, en particulier la prolifération néo-intimale, on se rend compte qu'on influe de façon importante sur l'infiltrat inflammatoire, en l'accélérant ou au contraire en le retardant, ce qui suggère que ce qui se passe dans l'adventice est corrélé, on participe aux événements donc, du remodelage vasculaire qui conduisent aux lésions de rejet chronique vasculaire. Donc, comment est-ce qu'on a fait ? On a utilisé le modèle que je vous présentais il y a un instant, d'interposition aortique chez le rat. On a sacrifié nos animaux à trois temps qui ont été choisis de façon très schématique pour être précoces, tardifs, à un moment où les lésions étaient fixées, puis un temps intermédiaire qui nous intéressait de façon un peu plus particulière. Et on a analysé nos greffons de deux façons, soit de façon classique en faisant une histologie pour voir à quoi ressemblait le greffon, soit de façon un peu plus subtile en essayant de séparer l'adventice, qui est la couche qui nous intéressait, du reste du greffon par des techniques de micro-dissection, ce qui nous permettait ensuite de mettre en suspension l'infiltrat et d'analyser sa composition en cytométrie en flux, ou de faire des techniques d'organoculture sur lesquelles je reviendrai. Donc la première chose qui saute aux yeux quand on s'intéresse à ce modèle, c'est qu'un mois après la greffe, vous voyez que les allogreffes, il y a une réponse adventicielle angiogénique extrêmement intense, qui n'existe pas dans l'isogreffe. Dans l'isogreffe, on distingue quelques petits vaisseaux, qui sont les vasa vasorum, qui sont les vaisseaux nourriciers de la partie externe de l'artère, de l'aorte donc. Mais vous voyez qu'il y a une prolifération angiogénique très importante lors du rejet chronique vasculaire. Non seulement ces vaisseaux dans l'adventice sont plus abondants, mais ils sont également très différents dans leur nature. Voici donc des analyses en microscopie électronique de ces vaisseaux. Encore une isogreffe à gauche, une allogreffe à droite. Vous voyez que l'endothélium de ces vasa vasorum est constitué donc d'un extrêmement classique d'une vénule, avec une cellule endothéliale très plate, des érythrocytes qui circulent, alors que dans les allogreffes, les cellules endothéliales sont devenues cuboïdes, avec des projections qu'elles lancent dans la lumière. Elles ont d'autres caractéristiques, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui sont des caractéristiques de cellules endothéliales spécialisées, qu'on appelle les high endothelial vénules, et qui sont des cellules endothéliales que l'on ne retrouve normalement que dans les organes lymphoïdes secondaires, et dont la fonction est d'être capable de recruter avec une très grande efficacité les effecteurs immunitaires, et notamment les lymphocytes. En accord avec ce que je viens de vous dire, en fait, on a dans l'adventice, effectivement, un infiltrat inflammatoire très important dans l'adventice. En haut, donc, un marquage avec un anticorps qui marque les macrophages. Vous voyez donc, ici, il s'agit de coupe longitudinale des greffons aortiques, avec la média qui est ici, la néo-intima qui s'est décrochée lors de la coupe longitudinale qui est un peu plus difficile à réaliser, et puis l'adventice. Vous voyez donc une adventice qui est épaisse, parce qu'elle est eudémaciée, avec une grosse réponse inflammatoire, beaucoup de macrophages, qui représente à peu près 50% de l'infiltrat, également beaucoup de lymphocytes T, CD4 et CD8, avec également une répartition donc, assez diffuse. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons fait de la cytométrie en flux, nous sommes rendus compte qu'on trouvait une population lymphocytaire B, qui représentait entre 5 et 20% donc, à peu près de l'infiltrat en fonction des animaux, et qui n'avait pas été précédemment décrite. Probablement parce que sa disposition est très différente des autres. Au lieu d'avoir une répartition relativement diffuse, on a ici donc, une répartition très nodulaire dans la partie externe de l'adventice. Et ces nodules sont à la fois le siège d'une prolifération importante, même si ces coupes ne sont pas très belles, et d'une apoptose également importante. Donc, ce qui nous a paru surprenant et ce qui nous a intéressé, c'est la mise en évidence de ces nodules lymphocytaires dans l'adventice de nos greffons en rejet chronique. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est de savoir si ces structures lymphoïdes existaient aussi dans les greffons humains en rejet chronique. Donc, on a collaboré avec un certain nombre de centres qui faisaient de la transplantation rénale, cardiaque, ce que je vous reparlerai plus tard. Et donc on a analysé 5 greffons cardiaques et on en est maintenant à 38 greffons rénaux. Et ces greffons donc, qui ont toute la caractéristique d'avoir des lésions très avancées, puisqu'il s'agit de rejets chroniques vraiment au stade terminal, qu'on détransplante, on a constaté que dans 100% des cas, on retrouvait ces nodules lymphoïdes qui sont assez similaires à ceux que je vous décrivais dans notre modèle expérimental. On a essayé de savoir quelle était la fonction de ces structures lymphoïdes au cours du rejet chronique. Et donc, je m'excuse auprès des immunologistes, mais je vais avoir besoin d'un certain nombre de notions que je rappelle brièvement ici. Le lymphocyte B naît dans la moelle osseuse, pas dans la circulation, il est recruté au niveau des organes lymphoïdes secondaires dont le ganglion lymphatique est un prototype grâce à des cellules endothéliales spécialisées dont je vous parlais précédemment, les high endothelial vénules. Lorsqu'il rencontre la cellule dendritique qui présente l'antigène et le lymphocyte T helper spécifique de cet antigène, le lymphocyte B va allumer un programme biologique particulier caractérisé par l'expression d'une enzyme qu'on appelle activation induced cytidine déaminase et qui va lui permettre en fait de faire deux choses. Il va proliférer et grâce à cette enzyme, il va faire des hypermutations somatiques au niveau de sa région variable des immunoglobulines, ce qui, dans un certain nombre de cas, va augmenter l'affinité de cette immunoglobuline pour l'antigène et permettre de sélectionner le lymphocyte B, et dans d'autres cas, va en fait échouer et le lymphocyte B va alors faire de l'apoptose. Lorsque le lymphocyte B est sélectionné, il va réaliser une autre opération qui est la commutation de classe, qui va consister à changer l'isotype de la chaîne lourde de son immunoglobuline pour lui conférer un certain nombre de propriétés effectrices. Et donc, à l'issue de tout ça, on va finalement obtenir donc, d'une part une réponse, enfin, d'une part des lymphocytes B mémoire qui vont permettre, lors de la réintroduction de l'antigène, de pouvoir monter une réponse secondaire de façon plus rapide, et d'autre part des plasmocytes qui sont des usines à fabriquer l'immunoglobuline qu'on vient de sélectionner par cette réaction-là, qui est très spécifique et très utile pour se défendre contre l'antigène. Lors de cette réaction, on a besoin donc, de cellules dendritiques folliculaires qui vont apporter un soutien aux lymphocytes B lors de cette réponse, qu'on appelle également la réponse du centre germinatif. Pourquoi est-ce que je vous présentais tout ça? Parce que quand on s'intéresse en fait à l'architecture, à la micro-architecture des nodules lymphoïdes qu'on trouve dans nos greffons rénaux, il s'agit ici d'un greffon rénal détransplanté, vous voyez qu'on a bien des lymphocytes B groupés en nodules qui sont en train de proliférer, qu'on trouve un réseau de cellules dendritiques folliculaires entre ces lymphocytes B, qu'en périphérie de ces nodules, on a donc un certain nombre de cellules endothéliales qui expriment des cyallomucines un peu particulières, qui sont les PNAD, donc il s'agit bien de haillons endothéliaux levés nuls. En périphérie, on retrouve aussi les cellules dendritiques matures et puis les plasmocytes. Et donc, en fait, la microanatomie de nos nodules lymphoïdes est très superposable à celle des organes lymphoïdes secondaires professionnels. Et ça va aussi assez bien avec ce qu'on avait trouvé dans notre modèle expérimental, puisque ces nodules B font à la fois de la prolifération et de l'apoptose. Ce qu'on voudrait savoir, c'est leur microanatomie est similaire, certes, mais est-ce qu'ils sont réellement fonctionnels? Et la deuxième question, c'est s'ils sont fonctionnels, est-ce qu'ils participent à la réponse de rejet chronique? Donc, pour répondre à la première question, savoir s'ils sont fonctionnels, on a regardé si nos lymphocytes B dans nos nodules, exprimer l'AID, qui est cette enzyme clé qui sert à la réponse du centre germinatif, et vous constatez que c'est bien le cas. Et ensuite, on a donc opéré un certain nombre d'expériences dans lesquelles on a mis en culture du tissu rejeté de façon chronique et montré par des cultures donc, tissulaires qu'on trouvait dans le surnageant des immunoglobulines qui avaient été produites localement et qui étaient bien dirigées contre le greffon, ce qui suggère que non seulement nos centres germinatifs sont fonctionnels, mais qu'ils produisent des immunoglobulines dirigées contre le greffon, donc qui participent vraisemblablement aux lésions de rejet chronique. Donc finalement, cette organisation progressive des infiltrats inflammatoires au cours d'une réponse immune est quelque chose qui était déjà connu, qui avait été décrit il y a une dizaine d'années dans un certain nombre de pathologies auto-immunes, notamment la polyarthrite rhumatoïde par Schroeder, et puis d'autres modèles expérimentaux chez la souris par Kratz en particulier. Et nous ne faisons que rapporter l'implication de ce mécanisme dans le rejet chronique. Et l'intérêt, c'est de présenter en fait le greffon au cours du rejet chronique à la fois comme la cible des allo-anticorps, mais également comme un des sites de production de ces allo-anticorps. Alors c'est effectivement un concept qui peut potentiellement être intéressant, mais à quoi est-ce que ça sert? Est-ce que ça pourrait... La question qu'on se pose, c'est de savoir si on pourrait utiliser ce mécanisme comme cible thérapeutique pour prévenir le rejet chronique. Ce n'est pas du tout évident, puisque les allo-anticorps ne sont pas produits uniquement dans le greffon, même si j'espère vous avoir convaincu que c'était le cas. Ils sont également produits dans les organes lymphoïdes secondaires professionnels du receveur, en particulier la rate et les ganglions. Donc pourquoi est-ce que cette réponse locale serait une cible plus importante qu'une autre? Je vous propose deux pistes. La première est issue d'un papier qui a été publié par une équipe new-yorkaise, donc dirigée par M. Bromberg. Il s'agit d'un modèle murin dans lequel on induit une tolérance indéfinie à un greffon vascularisé, qui est un greffon cardiaque, par la transfusion de sang et un anticorps qui bloque le CD40 ligand. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, cette induction de tolérance, elle s'accompagne d'une migration des cellules dendritiques plasmocytoïdes dans le ganglion, mais pas dans la rate de l'animal receveur qui est tolérant. Quand on utilise un anticorps bloquant le CD62L qui va gêner la migration de ces cellules dendritiques plasmocytoïdes, le résultat c'est qu'on va avoir pas, on ne va pas retrouver ces cellules dendritiques dans le ganglion, on va les retrouver dans la rate, on ne voit pas très bien cette image, mais le résultat intéressant c'est que ça va complètement changer la réponse immunitaire, la reprogrammer, puisque vous voyez que ces animaux ne vont plus être tolérants par rapport à leur greffon. Ça suggère qu'induire une tolérance, c'est probablement possible en manipulant le système, mais à condition que la réponse se fasse au bon endroit. Et peut-être on peut imaginer que la réponse, de par sa particularité, de se faire à l'intérieur du greffon, peut être particulièrement difficile à tolériser. Et que donc, tant qu'on aura une réponse au sein du greffon, on aura peut-être du mal à induire une tolérance sur le long cours. C'est juste une piste de réflexion. Je n'ai pas pour l'instant de données pour étayer cette hypothèse. La deuxième chose s'appuie un peu sur les commentaires de Mme Chatou, à partir donc de l'hypothèse de Polly Mattinger du danger, qui prédit que le système immunitaire reconnaît finalement davantage une situation de danger immunologique que le soi et le non-soi. Et il y a de plus en plus en fait, d'études qui mettent en évidence qu'effectivement, il y a une propagation en fait, de la réponse immune au cours du rejet chronique avec des réponses qui se font contre des constituants du soi et qui participent aux lésions de rejet chronique du greffon. Et on peut se demander si le fait de développer une réponse immune au sein d'un greffon, au sein d'un tissu qui est inflammé, pourrait pas favoriser une rupture de tolérance contre ces constituants et donc au moins expliquer une partie de ces lésions qui participent donc au rejet chronique. J'en ai terminé, je voudrais juste remercier tous les gens sans lesquels ce travail n'aurait pas été possible, en particulier donc les services d'urologie, d'anatomopathologie et de néphrologie, de Necker, Henri Mondor, Foch, Pasteur et Édouard Arieux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Olivier. Donc, communication suivante. Donc, Christophe Legendre, qui va nous parler de la recherche clinique et de l'alloréactivité humorale.
Donc, je vais retomber sur des choses qui sont peut-être beaucoup plus pragmatiques. Charon disait qu'il n'était pas inquiet sur le HLA, et effectivement, nous ne sommes pas non plus inquiets sur l'intérêt du HLA, car non seulement nous en demandons pas moins, mais nous en demandons beaucoup plus, et son laboratoire le sait, puisqu'il y subit un assaut de tous les cliniciens. Alors, on va essayer de voir pourquoi ce HLA est si important à l'heure actuelle. Alors, effectivement, le HLA et les anticorps anti-HLA, on les connaît depuis fort longtemps, depuis le milieu des années 60. Et ces anticorps, lorsqu'ils étaient présents au moment de la transplantation, provoquaient un rejet hyperaigu qui conduisait irréversiblement à la destruction du greffon en quelques minutes ou en quelques heures. Et très rapidement, à la fin des années 60, Paul Terasaki a mis au point un texte qu'on appelle le cross-match qui a permis d'éviter ces rejets aigus, ces rejets hyperaigus. Et depuis cette période, eh bien, nous sommes restés avec le dogme qu'il était impossible de greffer si ce cross-match était positif. Dans les années qui ont suivi, on a bien sûr compris que d'avoir des anticorps anti-HLA lorsqu'on attendait une transplantation, ça amenait un pronostic qui était moins bon que lorsqu'on n'avait pas d'anticorps anti-HLA, et on savait que les rejets survenaient plus tôt, étaient plus fréquents, plus sévères et plus résistants au traitement, mais globalement, on a assez peu progressé. Et puis, dans les quelques années qui viennent de s'écouler, on a eu à notre disposition un certain nombre de méthodes beaucoup plus sensibles pour détecter ces anticorps, que ce soit des techniques de cytométrie de flux, d'ELISA, ou les techniques Luminex, qui ont révélé la présence d'anticorps chez un certain nombre de patients chez qui on ne les soupçonnait pas. Alors, avec ces techniques, et c'est un travail de l'équipe de Saint-Louis, avec ces techniques, on sait que les patients qui n'ont pas d'anticorps au moment de la transplantation ont un meilleur pronostic que ceux qui ont des anticorps au moment de la transplantation. Ça, c'est classique, ça a été confirmé avec les techniques nouvelles. Ce qu'on sait aussi, et c'est le même travail, c'est que ces anticorps sont délétères. Pourquoi ? Eh bien, principalement parce qu'ils provoquent des rejets aigus de type humoral. Et vous voyez que les patients qui ont développé un rejet aigu humoral alors qu'ils avaient des anticorps, eh bien, ont un pronostic qui est moins bon que ceux qui avaient des anticorps ou n'en avaient pas, mais n'avaient pas développé de rejet humoral. Donc, c'est réellement le rejet qui est une des réponses à ce moins bon pronostic. Alors, on a également fait des progrès sur la définition du rejet humoral. Mais vous voyez que ces progrès, eh bien, c'est relativement récent. C'est la classification de Banff 97, publiée en 99, où on parle de rejet médié par les anticorps hyperaigus, et puis on parle timidement d'un rejet accéléré sans savoir très bien ce que c'est. Et il faudra attendre, finalement, la classification et la publication en 2003 de cette nouvelle classification pour définir le rejet aigu humoral, qui est un rejet qui a certaines caractéristiques histologiques, mais surtout qui survient chez des patients qui ont des anticorps anti-HLA. Et lorsqu'on fait une biopsie rénale, eh bien, on trouve sur la biopsie, sur les capillaires péritubulaires, un fragment du complément qui est le fragment C4D. Et donc, on a à notre disposition une définition du rejet humoral. Alors ça, c'est tout simple, c'est une définition pour les cliniciens. Il y a deux types de rejets, un rejet C4D plutôt cellulaire de type B, un rejet C4D+, plutôt lymphocytaire, et peut-être dû à des anticorps anti-HLA ou à des anticorps non-anti-HLA. Alors ça n'a pas qu'un intérêt didactique, ça a également un intérêt thérapeutique, puisqu'on a un certain nombre d'armes à notre disposition. On peut utiliser des immunoglobulines polyvalentes qui ont un certain nombre de rôles sur les lymphocytes B, sur le complément, sur le réseau idiotypique. On peut utiliser des anticorps dirigés contre certains marqueurs des lymphocytes B, comme les anticorps anti-CD20, ou bien on peut utiliser les échanges plasmatiques ou l'immunoadsorption pour éliminer les anticorps lorsqu'ils sont présents. Alors, ça a modifié le traitement du rejet aigu humoral, et nous utilisons tous, même si ce n'est pas exactement la même combinaison, ces différents traitements. Et à l'heure actuelle, un projet français de standardisation du traitement du rejet humoral va très bientôt commencer. Ce à quoi on est confronté également, c'est un certain nombre de patients qui ont développé des anticorps anti-HLA et qui sont difficiles à transplanter. Alors, ces patients, qu'est-ce qu'ils représentent? Lorsque les patients attendent une première transplantation, un minimum c'est-à-dire environ 15% ont des anticorps anti-HLA. Lorsque vous voyez, il s'agit de patients qui ont déjà été transplantés une première fois et qui souhaitent une deuxième, voire une troisième transplantation, et bien là, quasiment la totalité de ces patients est immunisée et donc a des anticorps anti-classe 1, classe 2 ou les deux. Alors il y a plusieurs stratégies. Une des stratégies consiste bien sûr à attendre et trouver un jour un greffon compatible. C'est une technique qui marche, mais elle se fait au prix d'un très long temps d'attente. On peut essayer également de rechercher l'individu rare, l'oiseau rare, en recherchant un cross-match négatif. Alors ça marche également. Un certain nombre de programmes ont été mis sur pied. Un programme européen, le Acceptable Mismatches Program, un programme français qui a progressé grâce à la ténacité de Corinne Antoine, qui s'appelle le programme Antigène Permis, qui a permis de greffer un certain nombre de ces patients. Et toutes ces techniques ont permis d'augmenter l'accès à la transplantation de ces patients difficiles à greffer. Donc les résultats sont très encourageants, bien que, malgré l'amélioration de ces systèmes de distribution, eh bien, un certain nombre de cross-match sont encore positifs, alors qu'on pensait qu'ils ne le seraient pas, que le risque immunologique n'est pas encore parfaitement bien estimé et que surtout la plupart de ces études ne comportent pas de biopsie de routine. Et donc, on verra tout à l'heure qu'on surestime peut-être le côté positif de ces résultats. Alors, il y a deux autres stratégies, les stratégies de désensibilisation. Et puis, je ne parlerai pas des greffes combinées foie-rein, même si c'est une technique qui marche, parce que c'est quand même beaucoup plus lourd. Alors, quels sont les objectifs de ces techniques de désensibilisation ? Soit de négativer le cross-match lorsque celui-ci est positif avec un donneur, le plus souvent un donneur vivant, soit de définir des cross-match positifs acceptables, c'est-à-dire qui donnent des résultats acceptables. Alors, on retrouve les mêmes armes thérapeutiques, hein, échange plasmatique, immunoadsorption, les IVIG, soit directement chez le patient, soit d'abord dans le tube à essai, puis chez le patient, des anticorps anti-CD20, une multiplication et des combinaisons différentes de ces diverses techniques. Et avec ceci, eh bien, on peut aboutir à des résultats qui, à court terme, sont des résultats tout à fait intéressants. Vous voyez ici des survies à 3 ans de patients qui étaient hyper-immunisés et qui ont subi ces techniques de désensibilisation. Eh bien, vous voyez qu'à 3 ans, la survie des greffons est relativement acceptable. 80% à 3 ans, c'est quelque chose qui est plutôt bon. Mais ces résultats sont des résultats à court terme. Alors, on s'est intéressé dans notre groupe à ce type de transplantation et on obtient également des résultats de bonne qualité, puisque vous voyez que sur 54 patients considérés comme à haut risque immunologique, avec un recul moyen de 2 ans et demi, on a 92% de survie des greffons et une mortalité extrêmement faible, 97% de survie. Et une incidence de rejet aigu relativement faible. Donc on pourrait penser que ces résultats sont extraordinaires et qu'on a enfin réussi à résoudre ce problème. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si on regarde maintenant les biopsies de ces patients et qu'on les compare au jour 0, au jour 3 mois ou bien à la première année, on s'aperçoit que des lésions glomérulaires qui n'existaient pas au moment de la greffe se développent chez une grande majorité de ces patients. Et ces lésions glomérulaires, eh bien, c'est une infiltration, une glomérulite, une infiltration des glomérules par des cellules, qui sont des cellules CD68, qui sont des cellules principalement, mais pas exclusivement, monocytaires, et des cellules qui sont des monocytes pro-inflammatoires. Un certain nombre d'entre elles possèdent également le marqueur CD16. Eh bien, lorsque on regarde ces glomérulites CD68, eh bien, un certain nombre d'études montrent que ce sont des cellules de mauvais pronostic. Ici, une étude canadienne qui montre que lorsqu'il existe une glomérulite CD68, eh bien, c'est un facteur indépendant de mauvais pronostic à long terme. Et puis une étude du groupe de Saint-Louis qui montre que lorsqu'on a développé un rejet hyperaigu ou aigu humoral et qu'on fait une biopsie dans les suites, lorsqu'il existe sur cette biopsie une glomérulite CD68, eh bien, le pronostic à long terme est moins bon. Et finalement, ces lésions de glomérulite, elles font le lit de ce qu'on appelle le rejet chronique humoral qui existe dans la nouvelle classification de Banff 2005, donc, qui a été publiée, vous voyez, très récemment, où ces lésions chroniques glomérulaires, ces lésions en double contour, ce qu'on appelle la glomérulopathie d'allogreffe, qui est liée en fait à une duplication des membranes basales à la fois des tubes et des glomérules, eh bien, aboutit à terme à la destruction du greffon. Alors, quels sont les futurs challenges auxquels on est confronté? Mieux définir le rôle des anticorps, définir la séquence exacte des lésions depuis le rejet aigu jusqu'au rejet chronique, essayer de définir des stratégies efficaces et sûres pour tracer ces malades et peut-être définir de nouvelles cibles. Alors, les techniques à notre disposition pour mettre en évidence des anticorps anti-HLA sont multiples et à l'évidence, il y a un souci de standardisation qui est important et le laboratoire de Dominique Charron et Caroline Suberbey en particulier et également les équipes nantaises travaillent beaucoup sur cette standardisation. En effet, on sait que lorsqu'on regarde des individus qui ont reçu un rein HLA identique, donc a priori une greffe à très faible risque immunologique, eh bien ceux qui ont développé avant la greffe des anticorps anti-HLA qui ne sont pas dirigés directement contre le donneur, eh bien ont un moins bon pronostic que ceux qui n'ont jamais développé d'anticorps. Donc ces anticorps sont importants même lorsqu'il existe une très bonne compatibilité. Et puis, autre papier récent, d'autres anticorps, les anticorps anti-MYC, eh bien ont un impact pronostic négatif. Vous voyez des patients qui, avant la greffe, n'avaient pas développé d'anticorps anti-HLA, eh bien, la présence de ces anticorps anti-MYC est un facteur de mauvais pronostic. Alors, un mot sur notre conception actuelle des lésions. Ici, vous avez représenté des polynucléaires, des anticorps, le complément, et puis les cellules endothéliales avec un rejet humoral classique. On a peut-être d'autres armes que celles que je vous ai citées. Et en particulier, il est peut-être possible d'utiliser des anticorps monoclonaux anti-C5 pour bloquer cette réaction. Une réaction plus faible qu'on a vue tout à l'heure, qui est la glomérulite CD68, on sait qu'elle est médiée en particulier par un certain nombre de monocytes, dont un certain nombre sont sensibles à des immunosuppresseurs comme les stéroïdes et le sirolimus. C'est peut-être quelque chose qui doit être essayé. Et puis, ça, c'est ce qui se passe dans le meilleur des cas, ce qui a été décrit en greffe ABO incompatible, c'est-à-dire l'accommodation. Mais d'autres schémas ont été proposés, qui restent encore à valider. Ça, c'est un schéma qui a été proposé par Robert Colvin, où chez les patients qui sont transplantés, eh bien, les anticorps apparaissent à un certain moment, les lésions apparaissent sur la biopsie avec un marquage du C4D qui est positif, et puis ceci entraîne des lésions histologiques et à la fin une élévation de la créatinine. Eh bien, ça, c'est une hypothèse de rejet chronique humoral, ça n'est pas encore parfaitement défini, et c'est à nous d'essayer de progresser dans cette direction. Enfin, définir des stratégies. Je vous ai parlé de toutes les stratégies pour transplanter ces patients à haut risque immunologique. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas les greffer avec un cross-match du jour positif, et ça, personne ne le fait encore. En revanche, les différents cross-match effectués sur des sérums historiques, sur le sérum du jour, la présence d'anticorps dirigés contre le greffon, fait qu'on peut réaliser une transplantation avec un risque qui augmente, et donc utiliser les différentes armes qui sont à notre disposition de la façon optimale. Ça encore, ça reste à être largement déterminé. Enfin, quelles sont les cibles et quels sont les nouveaux traitements qu'on pourrait utiliser? À quel stade du développement des lymphocytes B faut-il intervenir? On a vu tout à l'heure que ces lymphocytes B, ils étaient présents dans le sang périphérique, ils étaient présents dans le greffon, mais ils sont présents également dans la moelle osseuse. Et ça, c'est un papier intéressant qui vient d'être publié très récemment. Lorsqu'on recherche dans la moelle osseuse des futurs receveurs, qu'on prend des cellules médulaires, qu'on les isole et qu'on fait une sélection positive de ces cellules, et qu'on regarde après, parmi ces cellules, quelles sont celles qui vont sécréter des anticorps anti-HLA, eh bien, on s'aperçoit qu'une cellule sur 2 millions de cellules médulaires est responsable de la sécrétion de ces anticorps spécifiques du donneur. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'impact de nos traitements sur ces cellules précurseurs dans la moelle, eh bien malheureusement, qu'il s'agisse des échanges plasmatiques, de l'anti-CD20, de l'ATG, eh bien ces cellules sont tout à fait imperméables à ce qu'on peut faire chez ces patients. Autrement dit, lorsqu'on fait disparaître les anticorps avec nos traitements, eh bien, on n'a qu'une action tout à fait ponctuelle et il faut aller beaucoup plus loin dans la définition des cibles. Voilà, nous avons identifié l'ennemi. Il reste maintenant à fourbir nos arbres, à essayer de mieux les définir pour que les patients puissent être traités avec le maximum d'efficacité et de sécurité. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'écouter Olivier Tonnat, chef du département de transplantation et d'immunologie clinique à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Il développait au cours de ce colloque la notion de réponse allo-immune humorale locale au cours d'un rejet chronique. Sa communication était suivie par celle de Christophe Legendre, chef du service de transplantation rénale adulte de l'hôpital Necker à Paris, également professeur à l'université René Descartes. Il s'exprimait sur les recherches cliniques actuelles en matière d'allo-réactivité humorale et tous les deux s'exprimaient dans le cadre d'un colloque consacré à la recherche en matière de transplantation, colloque qui avait lieu en février 2008 à l'Académie des sciences. Pour poursuivre sur la question de la transplantation, nous vous invitons à poursuivre l'écoute de nos émissions en téléchargeant notre émission « Faut-il indemniser le don d'organes ?» en compagnie de Valérie Gâteau, philosophe des sciences médicales, qui travaille aux côtés d'Anne Fagot-Largeau au Collège de France. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie et à très vite pour de nouvelles émissions.